Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer. Il est 8h. Écoutez le monde tousser. Oui, car vous n'avez peut-être pas fait la différence entre ces différents types de toux, mais un ordinateur, une intelligence artificielle, est capable de reconnaître en les entendant celle d'un malade du Covid. Que disent les chiffres 10 jours après le reconfinement, 3 semaines après le couvre-feu? Prudence d'une spécialiste en modélisation des épidémies. Le gouvernement, lui, songe à infliger des amendes aux personnes contaminées qui ne respectent pas l'isolement, information Europe 1. Aux États-Unis, un président élu qui liste ses priorités: pandémie, économie, justice, climat, et un président battu qui tweete devant sa télé. Son avocat Rudy Giuliani.
Il y a des preuves solides que dans cette élection, au moins 3, 4, voire 10 États ont été volés.
Le canard boiteux, c'est ainsi qu'on appelle un sortant pendant la transition, compte bien se défendre bec et ongles. Dans ce journal, protéger les policiers et gendarmes contre les vidéos malveillantes, la proposition de loi soutenue par le gouvernement sera-t-elle suffisamment claire pour être applicable? Et puis le général de Gaulle, qui n'a pas seulement marqué l'histoire de France, l'histoire de la radio, ses écrits aussi ont fait date et la Bibliothèque nationale leur redonne vie 50 ans après la mort du Grand Charles.
Juste après ce journal, de notre alimentation en temps de confinement à nos rapports commerciaux avec les États-Unis de Joe Biden, Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, il répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Bienvenue à toutes et à tous sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et s'il suffisait de tousser dans un micro pour savoir si on a le Covid, ne le faites pas Mathieu, même si vous avez un masque. On apprend qu'une équipe américaine a une très bonne piste pour parvenir à un diagnostic de la maladie simplement avec le bruit de la toux.
Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour à tous.
Anne, c'est un principe qui existe déjà pour des diagnostics de coqueluche ou de pneumonie.
Voilà, si votre voisin tousse, une oreille humaine ne peut pas dire s'il est malade ou s'il a juste la gorge irritée. Mais une intelligence artificielle, si. Une équipe de chercheurs du MIT aux États-Unis vient de le prouver. Après des tests sur 5000 enregistrements, ce programme a repéré 98,5% des malades du Covid présentant des symptômes. Ils toussent comme ça. L'algorithme a même repéré 100% des malades asymptomatiques qui toussent, eux, comme ceci. Et si vous êtes en bonne santé, vous allez tousser comme ça. Et ces chercheurs aimeraient que leurs travaux aboutissent sur une application pour smartphone qui détecterait le Covid instantanément, gratuitement, sans bouger. Un résultat positif devrait bien sûr être confirmé en laboratoire. La mise au point prendra encore quelques mois, mais la piste est sérieuse. Des chercheurs suisses de l'École Polytechnique de Lausanne travaillent d'ailleurs également sur une application similaire.
Anne Le Gall pour Europe 1.
Et pour ce qui est de tous anti-Covid, l'application a déjà été téléchargée 8 200 000 fois. Ce week-end, le gouvernement commençait à parler de frémissements dans le bon sens concernant la circulation de l'épidémie.
C'est ce que confirme la directrice de recherche à l'INSERM, Vittoria Colizza. Mais sur Europe 1, elle précise que la décrue sera forcément longue.
On le voit bien, on le voit déjà par exemple aussi sur les données d'hospitalisation, ce sont vraiment les premiers signes, donc ça veut dire qu'il faut quand même du temps la semaine prochaine et quelques jours encore pour pouvoir consolider ces signaux et pour pouvoir vraiment établir qu'il s'agit bien d'un ralentissement dans la courbe épidémique.
Vittoria Colizza, invitée ce matin du 5-7 de Sébastien Krebs, ce matin à 6h40.
Pour accélérer l'amélioration de la situation sanitaire, le gouvernement réfléchit à un durcissement très net des conditions d'isolement des personnes contaminées.
Oui, c'est une information Europe 1 de votre pomme, Adrien Beck. La France pourrait suivre l'exemple de nombreux pays d'Asie en la matière.
Oui, isolement obligatoire avec contrôles et amendes conséquentes en cas de non-respect. C'est une hypothèse que certains poussent au gouvernement. On doit tout regarder si on veut s'en sortir, justifie un ministre. Ce serait en tout cas un changement de pied, car jusqu'ici, l'exécutif en appelait à la responsabilité des Français. En plus des problématiques de dépistage notamment, le sujet devrait être abordé en réunion interministérielle cette semaine. Il s'agit en fait de répondre à une demande d'Emmanuel Macron. Phrase passée presque inaperçu lors de son allocution sur le reconfinement, le chef de l'État avait appelé à un isolement plus efficace des personnes positives en vue du prochain déconfinement. Mais l'exécutif avance à pas compter, sujet extrêmement sensible, d'où la volonté de faire d'abord monter le débat dans l'opinion avant de rendre publique la moindre décision.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1.
Vous entendiez ce chiffre tout à l'heure dans le journal de 7h, je voudrais le souligner à nouveau, une PME sur 3 à son site internet. Seulement, 2 sur 3 en Allemagne par exemple. Alors que Ce reconfinement montre clairement la nécessité absolue du numérique pour toutes les entreprises.
Oui, d'ailleurs, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, annonçait hier dans le journal du dimanche une plateforme « Clique mon commerce » pour aider les commerçants à sauter le pas. Autre initiative, celle que Caroline Baudry est allée observer dans la ville du Mans. Ça vient d'être mis en place et là-bas, il faut aller sur acheteraumans.com.
Type de produit, je marque basket.
Seul dans sa boutique, au milieu des pulls et chaussures exposées, Philippe est en plein travail, pas de clients à accueillir, mais des photos et descriptions à charger sur sa boutique virtuelle.
C'est une autre facette du métier, une nouvelle approche. On n'arrivera jamais à compenser notre chiffre d'affaires physique, mais après, si on peut payer les charges fixes qui va nous rester, ça serait déjà pas mal. Moi, aujourd'hui, je suis à zéro de chiffre d'affaires. Il faut tout tenter.
Dans les rues autour de lui, une centaine de boutiques s'apprêtent à ouvrir en ligne. Bijoux, vinyle, chocolat à commander dans un même panier, explique Jérôme Gréory, le créateur d'acheteaumans.com.
On a l'équivalent d'Amazon, sans la puissance, évidemment, mais aussi le fait de pouvoir rencontrer son commerçant de proximité. Et donc, une marketplace locale, pour moi, c'est l'alliance du meilleur des deux mondes.
Depuis l'ouverture, jeudi, quelques articles ont été achetés par des manceaux prêts à jouer le jeu comme Sylviane.
Je ne suis pas habituée à cliquer, mais j'aimerais qu'on garde tous ces petits commerces. Donc si c'est le moyen de les sauver, pourquoi pas.
Des clients attendus de pied ferme par les commerçants alors que la période cruciale des fêtes de fin d'année va débuter.
Un reportage au Mans de Caroline Baudry.
8h06 sur Europe 1. Le feuilleton semblait terminé samedi avec l'annonce par les médias américains, y compris Fox News, de la victoire de Joe Biden à la présidentielle. Mais contrairement à la tradition, Donald Trump n'a pas reconnu sa défaite et il continue au contraire de crier à la fraude.
Bonjour Xavier Yvon.
Hello again, bonjour à tous.
En direct de New York ce matin encore. Xavier, l'investiture, c'est le 20 janvier. D'ici là, est-ce qu'il y a une sorte de protocole? Comment est-ce qu'on les désigne l'un et l'autre?
Alors, Joe Biden est officiellement, depuis samedi, le president-elect, le président élu. Il deviendra président tout court quand il aura prêté serment le 20 janvier prochain. Et Donald Trump, lui, est désormais le lame duck president. Ça veut dire le président canard boiteux, c'est l'expression traditionnelle utilisée pour désigner les présidents sur le départ, une fois leur successeur connu. Ils sont présidents, mais plus trop, en fait, sur une patte. C'était le cas d'ailleurs pour Barack Obama il y a 4 ans.
Xavier, voilà pour l'étiquette donc à l'américaine. Un petit coup d'œil, si vous le voulez bien, à l'agenda du jour. Que sait-on du programme des deux hommes?
Alors après un dimanche en famille, c'est parti pour Joe Biden. Il se met véritablement au travail aujourd'hui avec d'abord la nomination de sa task force pour la pandémie, une équipe de 12 personnes, médecins, experts en santé publique, chargés de le conseiller. Premier briefing dans la matinée, prise de parole dans la foulée. Et puis dans l'après-midi, Joe Biden va travailler avec son équipe qui, elle, prépare la transition. Il y a deux gros chantiers. D'abord, bâtir l'administration Biden. Quand un nouveau président arrive, il nomme non seulement son cabinet et ses ministres, mais aussi il remplace des centaines de postes clés dans les agences fédérales. Et puis, il faut préparer la prise de pouvoir en janvier. L'équipe de transition a lancé un site internet officiel pour expliquer les 4 priorités du mandat Biden: pandémie, économie, changement climatique et justice raciale. Tout sera mis en place pour que dès le premier jour, Joe Biden signe plusieurs décrets, notamment le retour des États-Unis dans l'accord de Paris et au sein de l'Organisation mondiale de la santé.
Et de son côté, Xavier, Donald Trump semble déterminé à ne rien lâcher.
Ah ça oui, le président sortant continue à vivre dans une réalité où il n'a pas perdu. Alors il n'y a rien d'officiel à son agenda aujourd'hui. Il se concentre sur sa stratégie pour contester en justice les résultats dans plusieurs États. Il a nommé un proche pour superviser par exemple le recomptage des voix en Géorgie. Son équipe de campagne inonde d'emails ses partisans pour demander de l'argent pour financer cette contre-attaque judiciaire. Selon plusieurs médias, Donald Trump envisage même de repartir sur la route, de tenir ses fameux grands meetings pour faire passer son message. On m'a volé l'élection. Le site Axios, qui est souvent bien renseigné, affirme qu'il envisage même de brandir publiquement des certificats de décès de gens morts qui auraient voté. Mais bon, vu les écarts de voix et le manque de preuves d'une quelconque fraude à grande échelle, les experts doutent que les efforts de Donald Trump mènent bien loin. C'est aussi ce que certains proches et conseillers à la Maison-Blanche tentent de lui faire comprendre pour qu'il accepte petit à petit sa défaite.
Xavier Yvon, en direct de New York pour Europe 1. Et puis pour vous donner une idée du climat politique du moment parmi certains supporters de Donald Trump, je voudrais juste qu'on entende cette tirade de l'un de ceux qu'on appelle les télévangélistes, ces prêcheurs qui rassemblent des milliers de spectateurs et téléspectateurs. Celui-ci s'appelle Kenneth Copeland. Ils disent quoi les médias? Que Joe Biden est président, s'en suit ce rire. Pardon. 40 secondes de rire à peine forcé, le public de cette salle qui finit par se lever pour lui aussi rire et applaudir.
un genre de thérapie de groupe. On aurait du mal à faire un rire aussi convaincant. L'actualité en France, Mathieu, avec cette proposition de loi sécurité globale qui prévoit notamment de pénaliser la diffusion malveillante d'images des forces de l'ordre.
Gladys Laffitte, une pétition recueille déjà près de 600 000 signatures contre ce texte.
Oui, cette interdiction de diffusion de l'image des forces de l'ordre, c'était d'abord une demande des policiers pour les protéger des cabales sur les réseaux sociaux qui peuvent mener à des agressions, comme l'explique Thierry Clerc, secrétaire général adjoint d'UNSA Police.
On a connu de nombreux collègues qui ont été amenés à déménager parce qu'ils avaient été identifiés. La police a droit également, les policiers en tout cas, ont droit de la sérénité.
Une demande fortement appuyée par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sauf qu'en réalité, le texte ne prévoit pas l'interdiction de filmer les forces de l'ordre, ni l'obligation de les flouté, mais il prévoit de punir d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende toute diffusion malveillante de leur visage, un terme beaucoup trop vague, estime Anne-Sophie Saint-Père, chargée de plaidoyer à Amnesty International France.
Comment va-t-on évaluer cette intention? Et puis dans les atteintes, il y a les atteintes physiques, mais il y a aussi les atteintes psychiques. Alors les atteintes psychiques, ça peut être très large. Donc où est-ce qu'on va mettre le curseur? Ça va laisser une place à l'interprétation et à l'arbitraire.
Seul le numéro d'identification des forces de l'ordre, le RIO, échappe à l'interdiction de diffusion. Le texte doit maintenant être débattu à l'Assemblée nationale à partir du 17 novembre prochain.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Vous en parliez avec le meilleur, Stéphane Bern. Il y a quelques minutes, entretien d'ailleurs à retrouver sur Europe 1.fr. De Gaulle, Charles de Gaulle, disparu il y a précisément 50 ans, 9 novembre 1970. Alors c'était l'homme de la résistance, de la France libre, de la 5e République, mais c'était aussi un écrivain. La Bibliothèque nationale de France lui rend hommage à sa façon sur son site internet. Diane Chénouda.
Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. À mon sens, la France ne peut être la France sans la grandeur.
Cette idée de la France du général de Gaulle est exprimée dès le début de ses mémoires de guerre. Bruno Raffaelli de la Comédie-Française en lit ici des extraits. Là, de Gaulle revient sur son fameux appel du 18 juin.
« Dès l'après-midi du 17 juin, j'exposais mes intentions à M. Winston Churchill. Qu'aurais-je pu faire sans son concours ? Il me le donna tout de suite et mit pour commencer la BBC à ma disposition. Nous convînmes que je l'utiliserais lorsque le gouvernement Pétain aurait demandé l'armistice. Or, dans la soirée même, on apprit qu'il l'avait fait. Le lendemain, à 18h, je lus au micro le texte que l'on connaît.
« J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. »
Le comédien va lire aussi des extraits des discours fondateurs du général de Gaulle, où il livre sa vision de l'État, un État fort avec à sa tête un chef élu au suffrage universel. Ce seront les fondements de la 5e République.
Diane Chénouda, édition spéciale ce soir sur Europe 1, 18h-20h autour des 50 ans de la mort du général de Gaulle. Ce sera avec Julien Bugier.
Merci beaucoup François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.